C'est avec grand plaisir que je vous salue au nom donc de Monique Vaught, la commissaire générale du Festival francophone en France francophonie, avec trois F, c'est-à-dire trois fautes, comme vous le savez, volontaires, pour en finir avec une image de simplement respect de la belle langue et du soutien à la qualité de la langue de la France, entre guillemets, et au nom de toute l'équipe, mais en vous disant, au-delà de ces saluts qui peuvent être formels, que un colloque comme celui-ci rentre totalement dans les idées centrales qui nous ont fait choisir un certain nombre de priorités pour cette année-là. L'actualité. Il s'agit pas d'aller, encore une fois, célébrer la belle langue ou faire la liste des millions de gens qui, sur la Terre, parlent français dans des cartes bleu, blanc, rouge. Il s'agissait de poser des questions d'actualité. Et vous savez bien, puisqu'aujourd'hui, après deux mois du festival, on en a quasiment déjà la preuve, que le démarrage avec le Salon du Livre, l'acuité des débats, le succès même de ce salon qui a augmenté la fréquentation et surtout le niveau des débats, la quantité de choses qu'il y a eu sur des questions, comme des questions d'ailleurs qu'on pose ici, manifeste en effet que nous ne nous étions pas trompés et qu'il ne s'agit pas de faire simplement un concert à la Bastille francophone ou d'écouter des conteurs africains sous leur baobab dans l'image traditionnelle que l'on donne de la francophonie, ni non plus de faire quelque chose qui rejoint totalement le centre même d'un de vos thèmes, dénier la francophonie, se laver les mains, prendre ça avec des pincettes en disant « je ne me mêle pas de ce néocolonialisme », etc., ce qui est une façon extrêmement hypocrite, mais qui fonctionne très bien dans la société, et notamment politique française, et qui consiste justement à rejeter tout un ensemble en faisant semblant d'avoir bonne conscience, de ne pas être complice de néocolonialisme. C'est ça qui est, je crois, la chose que nous avons voulu à la fois dénoncer, et d'une manière très simple, en donnant la parole aux francophones. Et là, peut-être, il y a une leçon. Il y a une leçon pour nous tous ici. Je crois que ce qui manque le plus dans tous nos débats, c'est justement qu'on ne donne pas la parole suffisamment à ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire qui sont les acteurs de l'histoire. Les acteurs d'une histoire qu'on considère un peu trop comme une histoire, que ce soit dans ses mauvais ou bons aspects, qui est faite uniquement par ce qu'on appellera le centre. Le centre, ça s'appelle par exemple la France. Et alors, la France qui fait ceci, la France qui fait pas cela, etc. La France qui fait pour, la France qui fait contre, la France qui opprime, la France qui opprime pas, etc. La France qui libère, la France qui décolonise ou qui colonise, etc. Et il y a quelqu'un qu'on oublie énormément là-dedans, c'est, oui, justement, l'autre. Et un autre qui, justement, a la qualité d'être le proche. Il n'est pas très loin, il n'est pas la différence absolue, il n'est pas la dialectique même haute qui fait que les choses sont bien coupées. C'est un autre, autrement dit, qu'on a du mal à situer parce que il est un peu de soi. Le même, il est un peu de cet autre-là et c'est ce qui dérange sans doute le plus dans l'histoire. C'est en ce sens que nous sommes en plein, en réalité, quand on parle de francophonie, dans l'enjeu de ce débat, et que les dénis que nous condamnons, le fait, les silences dont nous parlons sur un certain nombre de passés, rejoignent aussi les silences sur ce qu'on peut appeler la dimension francophone de la France. Ce que nous, j'en avais parlé d'un slogan au début de ce festival en disant, il s'agit de montrer que la France est francophone. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque nous parlons de l'histoire, comme par exemple la colonisation, la décolonisation, la postcolonialisme, etc., eh bien nous aurions tort de penser que c'est une histoire dirigée uniquement par la France avec encore une fois quelle est son attitude, quelle est sa position. La France est francophone, ça veut dire qu'elle est elle-même fabriquée par des gens qui ne sont pas les gens de l'Hexagone. Qu'elle est elle-même aussi pas seulement l'auteur de choses, exactions ou autres en Asie, en Afrique, en Amérique, mais qu'elle est elle-même dans ce qu'elle est, y compris dans son identité, fabriquée aussi par l'Afrique, par l'Asie, par l'Europe, par l'Amérique, par les Antilles, par ce qui étaient ses colonies. Et c'est ça peut-être qui est le plus grand déni en général, c'est essayer de faire une espèce de cordon sanitaire entre l'Hexagone d'un côté et toutes les autres choses ou les autres personnes, les autres qui sont à l'extérieur, même si il s'agit de montrer à quel point ces autres ont été influencés par ce qu'on appelle la France. Si on y pense très bien, je crois que c'est une manière intéressante de colorer ce colloque, c'est-à-dire de penser à cette dimension francophone de tout ce que nous disons, c'est-à-dire à des êtres, à des pays, à des sociétés, à des cultures, à des littérature qui parlent, qui disent des choses, qui ont exprimé depuis des décennies et des décennies un point de vue sur l'histoire, un point de vue sur la France, un point de vue sur eux-mêmes, et que c'est cela qu'on n'entend pas assez, que le grand déni dont nous parlons tous, avant tout ce déni-là, c'est le déni de la parole du proche, de la parole de celui. Soit par mauvaise conscience, on les a tellement abîmer les malheureux qui sont aliénés et qu'ils ne savent pas quoi dire, le grand silence soi-disant de l'altérité, soit qu'on se préoccupe encore une fois du centre et donc il s'agit de s'auto-accuser, de s'accuser, de régler entre hexagonaux un certain nombre de comptes avec l'autre comme objet de ce débat, comme objet de ce jugement et non pas comme sujet de l'histoire. Je crois qu'il y a ça profondément et quand nous disons la France est francophone, l'idée était très justement celle-là. Il ne s'agit pas, oui, de montrer que oui, il y a une francophonie qui est une belle circonférence avec au centre un pays qui est la France, qu'on peut donc accuser de tirer les ficelles, c'est-à-dire les rayons de ce cercle et d'être encore une fois économiquement, politiquement, culturellement, linguistiquement le grand maître de cette chose-là, ce qui ferait que du post-colonialisme au colonialisme, il n'y aurait absolument aucune différence et que tout ça, ce serait simplement des échelons de l'oppression et de la domination et de la dépendance. Je crois qu'il y a dans cette image-là quelque chose qui dénie profondément, encore une fois, une autre réalité qui consiste, encore une fois, à laisser la France au centre de la maîtrise de l'histoire de la France. C'est ça, je crois, que la dimension francophone que nous avons à prendre en compte manifeste d'une manière éclatante. C'est ce déni de la parole de l'autre qui est aussi le sujet de ce que nous avons à faire. Alors, je voudrais donner juste un exemple, puisqu'il ne s'agit pas de traiter ces sujets, c'est vraiment de montrer à quel point nous sommes, en parlant de ces sujets-là, dans une actualité, en effet, même de la semaine, mais ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement parce que, encore une fois, il y a toujours retour, comme on dit, du refoulé, lorsqu'on fait semblant de ne pas le voir. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que nous sommes aussi dans l'histoire. L'importance de ce colloque, c'est qu'il interroge l'histoire. Ce sont essentiellement donc des historiens, des gens qui regardent les choses. Et le grand danger que nous avons aujourd'hui, c'est, et on le constate justement dans l'actualité, c'est que dans la dialectique entre le présent et l'histoire, bien, nous sommes aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs, dans une phase où il s'agit de mettre l'histoire au service de l'actualité. Et non pas de mettre le présent au service de l'histoire. Et que ce qui compte, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire chacun avec l'histoire par rapport à nos enjeux stratégiques d'aujourd'hui. C'est un peu cela aussi qui est la chose. Et l'histoire, il ne s'agit donc même pas de la respecter, de la dire, mais simplement de venir piquer comme ça auprès de vous, auprès des historiens, auprès des chercheurs, tel ou tel argument qui permettra aujourd'hui de dire telle et telle chose. Il y a dans cette attitude un mépris profond de l'histoire. Il y a dans cette attitude quelque chose encore qui refait un silence sur l'histoire et un silence sur ceux qui ont fait l'histoire. On parle de francophonie et cette attitude un peu de déni, etc., en disant tout ça c'est du néocolonialisme, revient à faire taire, encore une fois, des centaines de voix, des milliers de voix qui ont pu voter, qui ont fait des choses, des gens qui ont écrit, qui ont décidé, qui ont eu une action et que l'on ne considère simplement que comme des victimes de quelque chose qui serait, encore une fois, la lutte du grand méchant hexagonal qui reste depuis le début celui qu'on considère comme le maître absolu de l'histoire et à qui on demande d'améliorer ou de changer. Dans cette parole francophone que nous avons entendue depuis 2 mois, il y a ceci qui est le décentrement de la France. Et je crois que si nous ne pensons pas à cette question du décentrement, c'est-à-dire que si on reprend la figure que la France n'est pas au milieu de ces cultures, littératures, politiques, géopolitiques francophones, mais qu'elle est dans la circonférence parmi d'autres, et que c'est ça justement qui est la grande chose que souvent on dénie ici, eh bien on ne comprendra pas et on n'avancera pas dans la réalité. Il n'y a pas d'un côté des victimes dont il faut s'occuper et un coupable qu'il faudrait condamner, mais il y a des gens qui sont des acteurs et les acteurs de l'histoire. Et que dans la décolonisation, peut-être ce qui manque le plus, c'est la parole de ceux qui ont fait la décolonisation. Peut-être tout simplement, parce que la grande chose, encore une fois, qu'on veut cacher politiquement, économiquement, dans l'image même de ce qu'on veut souvent donner d'une identité française, c'est Hélène Cixous qui a l'habitude d'écrire la France, L' et A-F-A-R-A-N-C-E, c'est-à-dire l'invention de quelque chose qui serait une prétendue unité, tu viens de le dire, à propos des accusations, et qui font qu'en effet, une accusation comme celle de celui qui dit « je ne veux pas parler avec les Français » est soit une aliénation, soit une stratégie qui consiste à repousser encore une fois ce même dans une unité qui serait « oui, il y a bien la France, il y a bien par exemple les Blancs, et puis en face il y a les Noirs, il y a même le Noir et le Blanc, et là encore on est dans un discours que tout ce que nous voyons dans l'expression, par exemple de ces cultures francophones, dénie. La pluralité, la diversité, le proche, et non pas cette dialectique de la différenciation absolue qui permet de mieux accuser et de mieux se poser comme victime, c'est ce que tous ces francophones, tous ces gens qui sont là le montrent. Alors en quoi c'est un rapport aussi avec l'actualité dont vous parlez, puisqu'on parle de ce qui se passe ici, des lois d'ici, etc. C'est qu'un des plus grands dénis entre cette francophonie extérieure Et ce qui se passe dans l'Hexagone, c'est justement le déni de leur relation. Combien de fois, combien à propos de l'immigration, à propos des cultures immigrées, à propos de la politique, à propos de ce qu'on appelle l'intégration, combien de fois avons-nous entendu parler du fait que tout simplement les trois quarts de ces gens sont ce qu'on appelle des francophones, qui sont issus des anciennes colonies, que dans leur culture, dans leurs expressions, dans leurs identités, ils ne sont pas des étrangers bizarres, polygames, musulmans, islamistes, et puis en face, il y aurait des Français purs, chrétiens, judéo-chrétiens, qui seraient là avec une ancienne histoire remontant aux Gaulois, et qu'on se pose la question comment. Mais le déni de la proximité de l'immigré est un des plus grands refus qui existent aujourd'hui dans la conscience de ces questions-là. Le refus de le considérer justement comme un proche, y compris avec une mauvaise conscience qui consisterait déjà qu'on l'a abîmé, il faut encore qu'on essaie de le repousser dans son altérité. Je dis très souvent que tenir l'autre en respect, c'est un peu la même chose aussi que parfois avoir l'air de le respecter dans une différence qu'on réinvente pour renier le fait qu'au fond, il s'agit de cousins, et il ne s'agit pas d'étrangers. Eh bien, nous sommes en plein dans le sujet. Parce qu'à propos de l'immigration, à propos de ces questions là, à propos en effet des immigrations positives ou pas positives et des discriminations, là encore on voit qu'un des grands dénis, c'est justement le déni de cette identité plurielle, diverse, qui intègre du français, qui intègre de la France, qui intègre de l'Afrique, qui intègre de l'Asie, de l'Amérique, de l'Outre-mer, et qu'on ne veut pas voir ça. Christiane le sait bien, qui sait à quel point nous avons du mal à légitimer en quelque sorte la puissance de la présence de l'Outre-mer dans l'histoire de la France, et pas seulement de l'esclavage, dans la présence de la France et dans la réalité de ce qu'on appelle aujourd'hui la France contemporaine. C'est en ce sens que je voulais juste insister, pardonnez-moi, sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement de soutenir un colloque parmi d'autres, mais de bien considérer que nous sommes en plein centre de ce qui est pour nous l'essentiel de cette année-ci.